Voilà, il est l'heure de commencer. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 47e soirée d'éthique publique, la troisième de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue aussi bien sûr à ceux qui sont en lien avec nous par retransmission en direct, nos amis fidèles de Bordeaux, à l'église Notre-Dame-des-Anges, de Lyon, à l'espace Saint-Ignace, de Poitiers, dans le cadre de la formation diocésaine, nos amis de la communauté francophone d'Athènes, réunis à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, et plus proche de nous, à Chaville, autour du Carmel apostolique. Bienvenue donc et très bonne année 2014, que nous puissions traverser les jours de cette année dans la paix du cœur, la paix des armes, dans la confiance quant à l'avenir, dans l'élan de la vie, même si parfois nous pouvons être tentés de succomber au pessimisme quand nous regardons l'évolution du monde et de nos sociétés, pessimisme qui risque toujours d'éroder nos dynamismes intérieurs. Eh bien, ces soirées d'éthique publique, elles veulent modestement être au service de ce dynamisme intérieur, en nous aidant à comprendre, parfois peut-être à agir, ou au moins nous situer dans les questions qui agitent notre société. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat du Centre Sèvres si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre. De même, il est possible de réécouter l'enregistrement de la soirée sur le site internet du Centre Sèvres. Un mot avant d'aborder le thème de ce soir pour vous rappeler une autre proposition du département d'éthique publique, le cycle de conférences sur les enjeux de défense et de sécurité qui se poursuit. Ce cycle où interviennent des spécialistes, militaires, chercheurs, journalistes, spécialistes de géopolitique et qui a pour but de nous aider à permettre un tour d'horizon précis des questions de défense et des enjeux de sécurité pour notre pays dans le monde aujourd'hui. Samedi prochain aura lieu la troisième séance de 10h à midi sur les questions éthiques que posent les nouvelles technologies en matière militaire. Et avec, pour nous aider à réfléchir, nous accueillerons le général Patrice Sartre, Monsieur Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, qui est juriste et philosophe, et le père Dominique Pécou, qui est membre de l'Académie des technologies. Il est possible de venir à une séance de ce cycle sans venir à toutes les séances. Le mois dernier, c'était l'année dernière, nous nous sommes interrogés sur la place de l'éthique dans l'entreprise. Ce soir, c'est vers la Syrie, c'est vers le Proche-Orient que nous tournons notre regard. Nous le faisons douloureusement, car au fur et à mesure des mois, nous avons le sentiment d'assister à la descente en enfer de ce pays. Les espoirs de tous ceux qui, début 2011, dans l'élan du printemps arabe, ont osé dénoncer pacifiquement le régime et sa dictature, semblent très loin, comme les affirmations de ceux qui pensaient que le régime allait s'effondrer assez vite. Peu à peu, le pays s'est enfoncé dans une spirale folle, constitution de groupes armés, rebelles, répression policière et militaire, affrontements pour obtenir, garder, reprendre le contrôle de villes, de régions, population civile soumise au bombardement, au combat, au déplacement, meurtres, enlèvements, détentions par le régime ou par des groupes armés. On pense, parmi beaucoup d'autres, à commencer bien sûr par les populations locales, les premières victimes, aux deux évêques, Mgr Boulos Yazigi et Mgr Johanna Ibrahim, respectivement évêques grecs orthodoxes et syriens orthodoxes d'Alep, enlevés en avril dernier, à notre compagnon jésuite, le père Paolo Dell'Oio, aux religieuses de Mahaloula ou aux quatre journalistes français. Plus de 130 000 morts, sans parler des blessés. Il n'est guère de région du pays qui ne soit à l'abri de ce terrible drame. Mais c'est aussi l'incapacité de l'opposition de s'unir et de présenter une alternative crédible au régime. C'est la montée en puissance des différents groupes fondamentalistes musulmans sunnites qui ont marginalisé de plus en plus les démocrates, la radicalisation des deux camps, l'intervention dans le conflit de groupes étrangers comme le Hezbollah libanais, mais pas seulement, la peur des minorités, les alaouites bien sûr, mais aussi la grande majorité des chrétiens qui redoutent l'inconnu qu'entraînerait la chute du régime et la victoire des fondamentalistes. C'est enfin le jeu des grandes puissances et des pays de la région, États-Unis, Russie, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, Qatar, Israël. Ce sont enfin les retombées régionales de cet affrontement en termes d'accueil de nombreux réfugiés et de déstabilisation des pays voisins comme le Liban, la Jordanie ou l'Irak. Alors entre le marteau et l'enclume, la Syrie est-elle devenue un pays perdu? Les habitants de Syrie ne savent plus quoi attendre ni espérer, pas plus que nous qui sommes souvent désorientés devant la complexité du conflit. Que se passe-t-il aujourd'hui en Syrie? Comment en sommes-nous arrivés là? Et alors que se prépare la conférence de paix qui doit s'ouvrir le 22 janvier à Montreux, en Suisse, afin de discuter d'un processus de transition politique en Syrie, quelles évolutions sont les plus probables? Quelles solutions sont réellement envisageables? Pour nous aider à y voir clair, je suis heureux d'accueillir deux observateurs attentifs de ce pays et de cette région. D'abord, Madame Basma Kodmani, merci beaucoup pour votre présence parmi nous ce soir. Vous êtes d'origine syrienne, née à Damas, dans une famille impliquée depuis longtemps dans la vie politique de votre pays. Votre père, notamment, je crois, fut diplomate, ambassadeur de Syrie en France, artisan du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Syrie après la crise du canal de Suez. Il quittera la Syrie après avoir été emprisonné pour avoir critiqué le régime. Politologue, docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris, vous avez travaillé notamment comme chercheuse à l'Institut français des relations internationales pendant plusieurs années, tout en enseignant dans différentes universités et institutions. J'ai eu ainsi la chance de vous avoir comme professeur à Paris 1 Sorbonne il y a quelques années. De 1999 à 2005, vous dirigez le programme Gouvernance et coopération internationale pour le Moyen-Orient à la Fondation Ford, basée en Égypte, avec pour mission de soutenir les institutions de recherche arabe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Puis en 2005, vous fondez l'Initiative arabe de réforme, travaillant en partenariat avec des instituts européens et américains sur les questions de réforme et de transition démocratique dans le monde arabe. Vous avez occupé les fonctions de chercheur visiteur au Collège de France, chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, et chargé de mission à la direction internationale du CNRS. Mais durant toutes ces années, vous n'avez pas été qu'un observateur attentif de la vie politique syrienne, vous y êtes engagé. En 2011, vous participez à la fondation du Conseil national syrien, dont vous intégrez le comité exécutif. Vous en serez la porte-parole et la responsable des relations extérieures jusqu'en août 2012, je crois, où vous démissionnez de vos responsabilités. Une expérience forte et on peut imaginer qu'elle ne fut pas toujours facile. Vous retournez alors à vos activités universitaires et vous vous consacrez à l'effort humanitaire pour le peuple syrien, notamment en participant à la création de l'association Initiative pour une nouvelle Syrie, dont l'action est dédiée à l'assistance humanitaire et à des projets pour favoriser une transition réussie. Vous continuez de suivre de très près l'actualité de votre pays. Merci beaucoup de votre présence parmi nous ce soir dans un emploi du temps que nous imaginons chargé et de la lecture que vous nous ferez des événements. Avec nous également ce soir, M. Frédéric Pichon, vous êtes diplômé d'arabe, docteur en histoire contemporaine, ancien élève de Sciences Po Paris. Vous avez vécu à Beyrouth, chez les Jésuites, et séjourné régulièrement au Proche-Orient, notamment la Syrie. Vous enseignez l'histoire et la géopolitique en classe préparatoire en grandes écoles. Vous êtes auteur d'une thèse sur la Syrie. Vous êtes chercheur associé à l'équipe Monde arabe Méditerranée de l'Université François Rabelais de Tours. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le Proche-Orient et sur les minorités chrétiennes. Je cite « Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord » qui parut en 2012 aux presses universitaires de France. Voyage chez les chrétiens d'Orient aux presses de la Renaissance en 2006. Maloula, du vieux avec du neuf, histoire et identité d'un village chrétien de Syrie, aux presses de l'Institut français du Proche-Orient en 2010. Vous êtes également souvent appelé comme consultant sur différents médias pour France 24, RFI et LCI notamment. Merci aussi beaucoup d'être avec nous ce soir pour nous partager votre analyse. Alors, sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à nos deux invités. Que se passe-t-il aujourd'hui en Syrie? Quelles évolutions sont prévisibles? Quelles solutions sont envisageables? 20-25 minutes d'intervention chacun avant d'engager le débat plus largement. Et c'est Madame Kodmani qui va commencer.
Merci beaucoup, Père François. Je suis heureuse d'être ici. J'étais peut-être parmi vous il y a à peu près un an et je me suis engagée à revenir l'année prochaine si vous m'invitez. Je sais que votre public est un public réfléchi, qui suit l'actualité, et je voudrais mettre en perspective ce que vous lisez au quotidien, qui est mauvais, plus mauvais le lendemain, et catastrophique un mois plus tard, et aujourd'hui proprement insoutenable, la situation humanitaire. Si on prend le temps de regarder de près ce que les organisations humanitaires rapportent, c'est maintenant relégué aux pages, non pas aux pages des quotidiens, mais plutôt aux sites, sur les sites des médias spécialisés et des organisations humanitaires elles-mêmes, la situation humanitaire est absolument indescriptible, puisque on est arrivé à la situation où la population meurt de faim, de froid et de maladies non soignées. Pour l'instant, ce sont des centaines. Ils ne sont pas comptabilisés parmi les victimes, bien sûr, puisque les victimes, ce sont les morts violentes, mais celles-ci sont des morts qui, je vous laisse définir en quoi elles sont supportables ou insupportables. C'est donc un drame humanitaire, c'est aussi un drame social. Nous avons, depuis 3 ans maintenant, un effort, une stratégie systématique de réponse de la part du régime, qui est d'abord la répression, puis le déchirement du tissu social et l'incitation à la confrontation confessionnelle. Et à cela, il y a toutes sortes de preuves, de documents, d'épisodes qui peuvent être décrits et qui l'ont été. Mais tout cela est noyé aujourd'hui dans un discours qui tourne autour de la menace islamiste. J'y viens dans un instant. Cet effort pour déchirer le tissu social, il consistait à se prévaloir de la laïcité et à se protéger derrière les minorités. Cette politique a, jusqu'à un certain point seulement, réussi. Elle réussit en faisant échouer l'État, c'est-à-dire en démantelant les institutions de l'État. Ce qui fait peur aujourd'hui aux Syriens, et non seulement les chrétiens, mais tous les Syriens, c'est le démantèlement des institutions de l'État. C'est la faillite de l'État central syrien. Ceci est une préoccupation pour les Kurdes autant que pour les chrétiens. Les Kurdes ne développent leur projet autonomiste ou séparatiste que parce que, pour la grande majorité, que parce qu'ils préparent une alternative au cas où l'État n'existerait plus. Il en est de même pour les autres communautés, sauf que pour la communauté chrétienne en particulier, il n'y a pas de territoire qu'elle puisse revendiquer ou délimiter pour s'y protéger ou pour développer un projet qui lui soit propre. Donc la communauté chrétienne, c'est véritablement le baromètre du malaise, de la peur, de l'inquiétude. C'est aussi l'inquiétude de tous les Syriens libéraux et laïcs. Et cela, je dis souvent en provoquant un peu les esprits conservateurs musulmans de la région, je dis, nous n'avons pas pour souci seulement de protéger les minorités, mais pour ce qui concerne une grande partie d'entre nous, nous allons nous protéger nous-mêmes derrière les minorités, car c'est grâce à nos minorités que nous éviterons un système politique monopolisant, englobant, monocolore et basé essentiellement sur une croyance, un système juridique, l'islam. Je dis cela parce que il me semble que ce que nous avons vécu au cours des deux dernières années, cela a été en grande partie le fait du régime d'une part, le fait de l'opposition d'autre part, qui a été de régionaliser le conflit. Le régime a dit, dès les premières semaines, nous mettrons à feu et à sang la région. Mais nous ne partirons pas. Bon. Progressivement, c'est ce qui est en train de se produire. Le phénomène des réfugiés est peut-être l'aspect le plus bénin des débordements de la crise syrienne. Mais les débordements régionaux prennent des proportions bien plus graves aujourd'hui, comme vous le voyez, concernant le Liban d'une part, l'Irak d'autre part, la Turquie qui arrive, la Turquie dans une moindre mesure, car elle arrive jusque-là à contenir les effets de la guerre en Syrie. Mais nous savons aujourd'hui que l'implication dans le conflit syrien d'un acteur libanais important aux côtés du régime. Nous savons aussi que petit à petit, les mouvements musulmans sunnites d'Irak se sont impliqués, dans une moindre mesure, mais se sont impliqués aux côtés de du soulèvement des rebelles syriens, et que à travers cela, nous avons une régionalisation qui s'est développée, sans compter les États. Donc, on a des acteurs non étatiques, qui sont le Hezbollah d'une part, les tribus essentiellement de la région d'El Anbar, qui est le prolongement dans la zone sunnite d'Irak du territoire syrien. Et nous avons derrière cela des États, l'Iran d'une part, les pays du Golfe d'autre part. La régionalisation pour le soulèvement s'est faite avec la militarisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les rebelles ont vu qu'il n'y avait plus de possibilité, il n'y avait plus de choix, sinon de rentrer chez eux ou de prendre les armes, ils ont choisi de prendre les armes, à partir de ce moment-là, ils deviennent dépendants au quotidien, et directement, et massivement, et de plus en plus massivement, à mesure que les armes lourdes sont employées par le régime, la rébellion elle-même s'arme plus lourdement, donc les moyens nécessaires deviennent plus importants, et nous avons un engrenage qui entraîne une implication directe de ces acteurs extérieurs. Dans cette région du monde arabe, l'argent est islamique. Il vient des pays conservateurs du Golfe. On les appelle conservateurs parce que le terrain social est conservateur, mais dans cet environnement conservateur, on a toutes sortes de tendances plus ou moins dangereuses pour l'ensemble de la région, certainement, et mortelles pour la Syrie. Nous avons des régimes du Golfe, des monarchies, qui voient dans la Syrie un prolongement de l'échec irakien. Pour eux, l'Irak était sunnite. Ils détestaient Saddam Hussein, mais ils auraient préféré un régime sunnite. Or, l'Irak est tombé sous la coupe de l'Iran. Et pour eux, aujourd'hui, si la Syrie tombe, alors il n'y a plus de protection. C'est donc un enjeu existentiel, ou c'est en tout cas c'est ainsi que le présentent les pays du Golfe, c'est un enjeu existentiel que de faire chuter le régime d'Assad, puisque c'est une confrontation indirecte, mais certaine et évidente, avec l'Iran, dont il faut absolument réduire l'influence de leur point de vue. Ça, ce sont les régimes eux-mêmes. Enjeux de pouvoir, rivalité régionale, à coloration religieuse, mais enfin tout conflit religieux, comme vous le savez, à travers l'histoire, a toujours été une question de jeu de puissance et de rivalité. Ici, il prend une tournure chiite-sunnite, une tournure confessionnelle. Mais à l'intérieur de ces pays du Golfe, et c'est là la dimension importante, il y a des courants, des institutions religieuses, des acteurs privés. Il y a de l'argent partout. Chez le moindre homme d'affaires est capable de dépenser des sommes très importantes. Et donc nous avons beaucoup de canaux privés qui se sont mis en activité, qui avaient fonctionné dans le temps en Afghanistan, puis qui ont refonctionné pour la Bosnie, qui ont refonctionné pour l'Irak et qui fonctionnent aujourd'hui pour la Syrie. Ces canaux-là, ils sont extrêmement difficiles à contrôler. Ils sont le cauchemar des régimes du Golfe eux-mêmes, parce que c'est les débordements radicaux et djihadistes contre leur propre régime. C'est donc un danger pour l'ensemble de la région. Et nous avons donc une islamisation du soulèvement qui s'est produite en Syrie. Islamisation par le fait des financements. C'est donc plutôt une révolte qui devient financée par les islamistes, bien plus qu'une révolte islamiste. Et il est très clair pour tout observateur honnête de la situation syrienne que si on connaît un peu le discours et l'esprit des combattants, qui ce sont à 80-85% des Syriens ordinaires, non politisés au départ, sans orientation idéologique. On leur a dit qu'il fallait citer quelques versets du Coran pour être financés. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils sont financés. Et ils prennent des noms de brigades islamiques, à connotation islamique, puisque c'est comme ça qu'ils pourront être financés. Alors, où mettre le blâme? Est-ce à cause des rebelles eux-mêmes? Dépendance? Ils n'ont pas voulu rentrer chez eux, ils ont préféré prendre les armes et jurer loyauté à l'islam radical et à l'État islamique. Le fait est que, ou est-ce que ce sont les pays du Golfe eux-mêmes, ou est-ce encore les pays qui ont sous-traité au régime de la région sans exiger que ce soutien aille à des groupes qui s'engagent à maintenir l'unité de la Syrie et un régime démocratique. Je crois qu'il y a une grande faille, un grand échec dans la politique américaine en particulier, européenne dans une moindre mesure, qui était de ne pas avoir été suffisamment honnête, enfin suffisamment franc et direct avec ces pays, en disant il faut la chute de Bachar el-Assad, oui, mais il faut un régime démocratique ensuite. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Puisque le discrédit qui s'abat aujourd'hui sur la révolte, c'est alors on va faire partir Bachar el-Assad pour se retrouver avec un régime islamique. C'était bien la crainte de tous les démocrates en Syrie. Est venu se greffer là-dessus un phénomène qui est distinct de ce que je viens de décrire et qui est le mouvement Al-Qaïda. Et celui-là est un opérateur mondial, comme vous le savez, avec des ramifications un peu partout. Il faut prendre les éléments d'Al-Qaïda comme des armes en elles-mêmes, autrement dit, un instrument que n'importe qui peut utiliser dans la région. Al-Qaïda a été utilisé par tous les acteurs de la région, les pays du Golfe, l'Iran lui-même contre les États-Unis en Irak, la Syrie elle-même en Irak, ainsi qu'au Liban, quand il fallait combattre les mouvements nationalistes palestiniens. Al-Qaïda est un mouvement à mobiliser quand on veut, avec par n'importe quel régime, et tout le monde a manipulé Al-Qaïda. Aujourd'hui, Al-Qaïda se trouve en Syrie. Qui manipule Al-Qaïda? Ils se financent malheureusement eux-mêmes de sources sur un plan local en Syrie, et ils ont recours au pétrole, aux réserves de blé, aux usines. Ils se financent. Donc il y a un autofinancement et ça les rend d'autant plus difficiles à contrôler. Et c'est donc un poison, un cancer qui s'est installé. Le régime l'a encouragé, les éléments qu'il manipulait dans le passé, il les a relâchés pour favoriser cela. Il a ouvert la frontière. Bon, tout le monde porte une responsabilité, mais Al-Qaïda a pour terrain favori le chaos. Et le chaos syrien est devenu pour Al-Qaïda, évidemment, un territoire privilégié. À partir de ce moment-là, le dilemme s'est posé. Enfin, il y a eu un affaiblissement à la fois en termes d'image, mais aussi en termes de capacité, du mouvement, du soulèvement lui-même, et des groupes armés autres qu'Al-Qaïda. Fallait-il composer avec ce groupe, puisqu'il prétend se battre contre le régime? Fallait-il se battre contre lui? Et je pense qu'il s'est écoulé plus de 6 mois, 8 mois, pendant lesquels les groupes armés ont observé Al-Qaïda. Ce mouvement s'est révélé, il y a deux composantes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour dire, il s'est révélé c'est lui qui a déclaré les hostilités à ce qu'on appelle l'armée libre, autrement dit les groupes non djihadistes, en tuant des chefs, etc. Et là, c'était une déclaration de guerre. Donc depuis peu, depuis un mois, nous sommes devant un phénomène de combat, de lutte triangulaire entre le régime, les groupes armés et Al-Qaïda. Les solutions ne sont pas simples, évidemment. Mais je pense que ces groupes devaient tirer un trait quelque part pour dire ce groupe-là représente un danger pour nous comme pour tout le monde. Le développement positif sur lequel je voudrais tout de même revenir un instant et m'arrêter un instant pour dire vers où il peut aller, c'est que dans ce contexte, cette hyper-militarisation qui a pour rappel quotidien des bombardements du régime, aujourd'hui encore, un hélicoptère a lâché un baril de TNT dans la banlieue de Damas, tuant des gens, voilà, tous les jours, nous avons ce phénomène, ça ne peut pas s'appeler autre chose que du terrorisme d'État. Donc voilà, on a deux terrorismes aujourd'hui en présence, et puis une population dont un tiers maintenant est déplacé de chez elle, et les deux autres tiers qui attendent de voir quelle sera l'issue de ce combat. Dans ce contexte d'hyper-militarisation, il y a un retour des voix démocratiques qui disent « nous cherchons maintenant le terrain où nous pouvons nous exprimer à nouveau ». Comment peut-on remobiliser les démocrates, les militants laïcs? Beaucoup d'entre eux ont lâché les armes parce qu'ils ne peuvent plus se battre, parce qu'ils n'ont pas eu de moyens d'ailleurs de se battre. C'est la raison pour laquelle ils ont abandonné. Tandis que des groupes islamistes des groupes financés par les islamistes, ceux qui ont accepté de rejoindre des groupes islamistes sont restés dans le combat. Et ceux qui n'ont pas accepté de rejoindre les groupes islamistes, pour certains, ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas de moyens de se battre. Ces groupes-là cherchent aujourd'hui désespérément un terrain d'expression et veulent revenir. Ils ont joué un rôle très important et continuent de le faire dans l'aide humanitaire, le soutien médical, le soutien à la société civile, la gestion des affaires quotidiennes de la population au niveau local. Il y a une vie locale qui s'est développée. C'est un des aspects positifs et intéressants de comment la population se soutient elle-même, se s'organise elle-même. Ces groupes cherchent une expression, cherchent un terrain pour se manifester et pour revenir. Petit à petit, ils renouent avec des groupes silencieux qui, par crainte de l'inconnu, sont restés neutres jusque-là. Et ce phénomène, je crois, est peut-être la lueur d'espoir qui permettra de dire voilà les Syriens, ce que veut la majorité des Syriens. Ceux qui sont restés silencieux, pas ceux qui ont soutenu activement le régime. Cela, malheureusement, la population ne leur trouvera pas d'excuses. Mais elle trouvera des excuses à beaucoup de monde, pour tous ceux qui n'ont pas voulu se battre, qui sont restés silencieux, qui n'ont pas soutenu le mouvement, qui l'ont critiqué. L'heure est à renouer avec ces groupes-là pour envisager, après tout, ce que nous voulons, c'est sauver la Syrie. S'il s'agit de perdre le pays tout entier, nous sommes tous perdants. Donc on a une masse critique, je crois, mais malheureusement silencieuse pour l'instant. Et c'est cette masse critique qui peut-être être mobilisée dans un processus politique si celui-ci offre des conditions raisonnables, si vous voulez, pour une négociation et une sortie négociée du conflit. C'est pourquoi je fais partie, moi et avec beaucoup d'autres, de ceux qui souhaitent, et beaucoup de ceux qui sont silencieux, et beaucoup de ceux qui sont sympathisants sans être actifs, favorables à la tenue de ces négociations, bien que les perspectives soient encore très très faibles de réussite. Il n'y a pas de perspective aujourd'hui de réussite. Je pense que c'est le moyen d'ouvrir un espace d'expression pour le retour des voix démocratiques, des voix démocrates, des démocrates. C'est un moyen de mettre le régime en face de ses responsabilités et dire voilà des gens raisonnables qui veulent une solution négociée. Pour ma part, je fais le pari que c'est le plus grand danger pour le régime, c'est celui-là, ce ne sont pas les armes, parce que les armes, il est capable d'y faire face. C'est de mettre toutes les puissances régionales et internationales devant leurs responsabilités. Car il y a un échec et une gestion très insatisfaisante, pour ne pas dire davantage, de la crise, à la fois sur le plan diplomatique. On sait la responsabilité de la Russie dans le refus de voter ou dans le veto opposé aux résolutions du Conseil de sécurité. À chaque fois que cela se produisait, émergeait sur le terrain un groupe islamiste qui s'annonçait encore dans un discours encore plus radical. Donc le lien entre l'impasse politique et la radicalisation est absolument évident à chacun des différents épisodes de la crise. Donc aller à Genève ou à Montreux, puisque la négociation se passera à Montreux, c'est peut-être le début de cette voie qu'il faut dégager, qu'il faut ouvrir, qu'il faut tracer. Pour l'instant, il n'y a pas de chemin éclairé, mais peut-être que des éléments raisonnables de part et d'autre, non impliqués dans les crimes, de part et d'autre, la responsabilité du régime n'est absolument pas à mettre au même niveau que les groupes sur le terrain, que les choses soient bien claires, pour les moyens que le régime déploie n'ont rien à voir avec ce que les groupes armés peuvent faire sur le terrain, mais aller à une négociation et retrouver des politiques qui croient en une solution politique, c'est peut-être le moyen de trouver une issue à cette tragédie syrienne.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci de votre propos. Merci de cette relecture éclairante de ces deux dernières années. Je retiens pour ma part ce que vous avez dit de la dépendance de plus en plus grande des rebelles vis-à-vis des pays de la région avec... l'islamisation de la révolte finalement par le financement, ça je crois que c'est quelque chose de très important. L'enjeu de la rivalité évidemment entre les pays du Golfe et l'Iran, la responsabilité aussi américaine, européenne. Vous êtes passé vite, mais on sent qu'il y a des choses très importantes derrière tout cela, dans cette situation. Et puis le rôle spécifique d'Al-Qaïda, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le conflit se fait un peu à trois, l'armée, les groupes rebelles, Al-Qaïda. Alors face à ces deux terrorismes en présence, on voit que vous croyez encore à la voie politique, qu'il y a une masse critique qui espère pouvoir être de nouveau actif dans un processus politique. Vos propos ouvrent évidemment à beaucoup de questions. Nous y reviendrons tout à l'heure. Sans plus attendre, je laisse la parole à Frédéric Pichon.
Bien, bonsoir. Je voulais placer mon intervention sous le signe peut-être un peu froid de la géopolitique, c'est-à-dire du savant dosage de la question de la puissance, en m'appuyant notamment sur la distinction que fait Max Weber dans Le savant et le politique entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Une éthique de conviction qui fait qu'effectivement il y a un certain nombre il y a une émotion, surtout face à un conflit meurtrier, comme l'a dit Basma tout à l'heure. Il est évident que les 130 000 morts évalués, d'abord je pense, sont totalement sous-évalués, mais dans lesquels on ne compte pas effectivement toutes les victimes collatérales évidemment du conflit. Mais au-delà de cela, je crois que ce qui a manqué peut-être à nos analyses et à nos analystes depuis le début, ça a été de plutôt réfléchir sur l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire d'accord, mais et après, et songer notamment aux conséquences d'un certain nombre de choix. Et vous avez terminé votre intervention sur la question justement de la responsabilité de la diplomatie, et donc je suis quasiment d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, mais je pense qu'effectivement il faut revenir peut-être de manière chronologique sur un certain nombre de choix qui ont été faits et qui, à mon avis, font partie aussi des responsabilités des responsabilités dans la situation actuelle. Je ne vais pas revenir sur l'historique. Donc à la mi-mars 2011, cette brutale répression des services de sécurité syriens qui vont mettre dans la rue une partie de la population de Deraa, donc au sud de la Syrie. Mais ce qui est sûr, c'est que très rapidement, la contestation envers le pouvoir syrien s'est amplifiée. À Deraa, bien sûr, mais dans d'autres villes de Syrie, comme Latakia ou Banias. Et ce qui est étonnant, c'est que dès le 27 mars 2011, Bachar al-Assad se dit prêt à des concessions. Il abroge l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, hein, il faut le rappeler. Il relâche tout de suite des prisonniers politiques, 250, pour la plupart d'ailleurs islamistes. Hein, mais le mouvement va s'étendre à travers la Syrie, sans toutefois, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, sans toutefois que les grandes villes comme Damas ou Alep ne soient touchées au début par la contestation. Alors évidemment il y a des raisons sécuritaires à cela, mais je crois qu'il y a une question qui est aussi économique, socio-économique, et notamment l'impact de la mondialisation. Alors, je pense qu'aussi, mars 2011, il faut le remettre dans son contexte. Le contexte, c'est celui du printemps arabe. Vous me permettrez de mettre entre guillemets cette expression, mais à l'époque, en mars 2011, on parle de printemps arabe. Et ce printemps arabe est favorable, en quelque sorte, à cette contestation. Ce printemps arabe a déjà emporté le régime de Ben Ali en Tunisie, dès l'année 2010. En février 2011, Hosni Moubarak est effectivement renversé. La révolution qui mène à sa chute est d'ailleurs très rapidement confisquée. Il ne faut pas oublier que, petite semaine après la chute de Moubarak, en février, eh bien, c'est le cheikh Al-Qardawi, un des prédicateurs vedettes de la chaîne Al Jazeera, de la chaîne Qatari Al Jazeera, qui vient prêcher, qui vient diriger la prière depuis la place Tahrir au Caire. Donc l'islamisation est en Égypte en tout cas très tôt, ou en tout cas soutenue par ces bailleurs de fonds du Golfe dont a parlé Basma. Et mars 2011, c'est aussi l'imminence des frappes de l'OTAN sur le guide libyen Muammar Kadhafi, qui est aussi contesté depuis quelques semaines. Donc il semblait inéluctable que le raïs syrien tombe à son tour durant l'année 2011. Bon. Or, près de 3 ans après, effectivement, non seulement le régime est toujours en place, mais il me semble même que, moi j'irai un petit peu plus loin que vous, il me semble même que les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, se sont résignés à son maintien au pouvoir en Syrie. Alors... dès les débuts, moi j'ai suivi cette crise évidemment de près. Je suis un observateur extérieur, je suis un spectateur engagé comme Raymond Aron en quelque sorte, mais je l'ai suivi comme chercheur. Et j'ai été étonné de voir que tous les experts qui avaient été convoqués officiellement pour analyser cette crise n'ont pas voulu voir que les slogans que l'on entendait... n'ont voulu voir dans cette révolte, si vous voulez, que des slogans, effectivement, qui correspondaient à nos catégories occidentales, nos catégories intellectuelles. Hein, et certains experts ont, je pense, on peut le dire, raconté une sorte de roman acceptable pour nos consciences soucieuses d'universalisme démocratique, hein, mais plutôt que de décrire la réalité. Et en fait, vous avez terminé en parlant de cette opposition laïque introuvable, mais enfin qui existe. Et il ne me semble pas que le Quai d'Orsay, notamment, ait choisi dès le début de soutenir justement ces opposants, qui étaient certains opposants d'ailleurs, qui étaient tolérés par le régime, qui étaient garants d'une légitimité irréprochable. Et que nous connaissions très très bien, hein, la France comme l'Union européenne était en contact avec ses opposants qui allaient plus tard former, comme vous le savez, le Comité de coordination nationale pour le changement démocratique. Hein. Alors évidemment, ils avaient un seul tort, c'est peut-être ses opposants, c'est qu'ils étaient catégoriquement hostiles à une intervention occidentale. Et que cela contrariait peut-être les calculs de certains dirigeants qui, disons, à la culture atlantiste un peu plus prononcée que par le passé. Bon. Or, ce qui s'est passé, comme l'a dit Basma, c'est que la contestation était prise en main par les pires extrémistes, qui obéissaient, eux, à un agenda largement dicté par les puissances du Golfe. Mais ça, on le savait. Et on ne peut pas s'étonner que, effectivement, la sous-traitance par ces États du Golfe, par ces puissances du Golfe, que l'on a laissé faire, amènerait au résultat que l'on voit maintenant. Hein. Il est évident qu'en termes de droits humains et de liberté démocratique, l'Arabie Saoudite et le Qatar n'ont pas de leçons à donner. En fait, le calcul de l'Occident, ça a été, et c'est une erreur fondamentale, celui d'une chute rapide, Bachar al-Assad. Je pense que l'euphorie du printemps arabe a beaucoup joué. Et donc, effectivement, à court terme, c'est une stratégie court-termiste. On s'est dit, tout est bon, y compris l'utilisation de ce genre d'activistes ou de djihadistes pour faire tomber le régime. Et donc, les calculs de la diplomatie française, me semble-t-il, qui a choisi dès le début de monter aux extrêmes, se sont avérés catastrophiques pour les Syriens, comme pour les groupes d'opposition d'ailleurs que la France soutenait. Excusez-moi. Voilà. Donc je pense que 3 erreurs ont été commises effectivement en Syrie. D'abord, on a sous-estimé la résilience de l'armée et du régime. La deuxième erreur fondamentale, c'était de croire qu'une intervention internationale pourrait avoir lieu malgré les Russes. Je reviendrai aussi là-dessus. Et enfin, penser, mais cette question y est liée un petit peu, que l'émotion suffirait à mettre les opinions publiques de la partie. Et il me semble que la France a fait ces 3 erreurs à la fois. Alors, la première, je vais revenir dessus, la première, c'est la question de la résilience du régime. Comment ce régime, dont certains ministres des Affaires étrangères annonçaient qu'il allait chuter, que c'était une question de jour, une question de semaine, comment a-t-il pu tenir? Alors, on parle souvent de la communauté alaouite, ou en tout cas de l'Asabiya alaouite, c'est-à-dire cette communauté de solidarité qui a, il est vrai, à partir de 1963, mais de manière encore plus prononcée en 1970, littéralement phagocyté l'État syrien. Mais en réalité, cette sabiya est beaucoup plus large que la communauté alaouite. Alors, bien entendu, les minorités chrétiennes, druzes, moins les Kurdes, puisque les Kurdes, eux, ont toujours été, d'une certaine manière, mis à part et toujours considérés comme suspects par l'État central syrien. Mais ces minorités-là, effectivement, ont servi... ont vu leur intérêt bien compris dans cette protection qu'assurait cette clique au pouvoir à Damas. Mais la Sabiha, au fil du temps, a été beaucoup plus large, même que ces communautés minoritaires. Elle a su englober une partie, en tout cas, de la bourgeoisie sunnite, tout simplement parce qu'à partir des années 90, sous Hafez al-Assad, eh bien, la Syrie s'est timidement... engagé dans un processus d'ouverture économique qui a été encore accentué à partir de 2000 par Bachar el-Assad. Et je crois qu'on a sous-estimé aussi l'impact de la mondialisation aussi dans le soulèvement syrien. Ce n'est peut-être et sûrement pas d'ailleurs à la base une question confessionnelle, hein, le surgissement de cette révolte syrienne, sunnite contre alaouite, etc. Ça, à mon avis, c'est davantage une espèce de surinfection du conflit. Ça n'est pas non plus uniquement une question, parce que sociologiquement, ça n'est pas uniquement une question, pardon, de contestation sur le plan politique de la dictature. Je crois que plus largement, c'est venu, comme en Tunisie d'ailleurs, d'un ras-le-bol général de la part de régions entières de Syrie, de catégories de population entières, il est vrai majoritairement sunnite, celles des campagnes qui furent les grandes oubliées de cette ouverture économique et de cette insertion timide, mais insertion dans la mondialisation. C'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres régions du monde. La mondialisation, elle choisit, elle sélectionne les territoires, et évidemment, ce sont les villes, ce sont les ports, mais surtout les villes, ce sont les citadins, ce sont les bourgeoisies qui tirent en quelque sorte les dividendes de cette ouverture économique. Et l'État, d'ailleurs, syrien, s'est d'une certaine manière désengagé d'un certain nombre de ses fonctions redistributives, notamment... en réduisant un petit peu la voilure du secteur administré, agricole, notamment en Syrie. Et donc là aussi, on le voit très bien avec la géographie de la révolte syrienne, ce sont des villes sur le déclin, qui étaient oubliées du pouvoir central, qui ont aussi joué, qui ont eu leur importance dans cette révolte. La chute, enfin en tout cas l'assaut, si on peut parler comme cela, qui a été mené sur Alep à l'été 2012, qui a vu une partie de la ville tomber aux mains de la rébellion, eh bien, illustre bien cet état de fait. Hein. Ça a été, pour certains, comme une sorte de revanche des campagnes aussi sur ces citadins qui avaient tiré parti de la mobilisation au détriment, hein, d'une certaine manière, de ces zones rurales. D'autre part, la résilience, c'est aussi celle de l'armée. On nous a annoncé des défections. L'armée syrienne, dont il faut bien rappeler que même si ces unités d'élite, effectivement, sont composées d'alaouites, qui, eux, de toute façon, ont tout intérêt à se battre jusqu'au bout, on les voit mal déserter en cours de route, puisque, de toute façon, c'est en quelque sorte leur vie même et leur sort même qui est en jeu. Mais l'armée a aussi peu connu de défections. Alors, est-ce que l'armée arabe syrienne et toute la propagande autour a su réussir à faire garder ses troupes près d'elle? En tout cas, ce qui est intéressant depuis 3 ans, c'est que malgré quand même une série de revers, malgré aussi des massacres, hein, il faut bien le dire, de certains soldats, eh bien, l'armée syrienne tient bon. Alors, il est vrai qu'elle est épaulée par un certain nombre d'éléments étrangers, le Hezbollah, certaines milices irakiennes, probablement aussi, même si ça n'est pas confirmé, mais des pasdaran venus d'Iran, des gardiens de la révolution, mais en tout cas elle a assez bien résisté. Donc là encore, je crois qu'il faut revenir à cette euphorie qui nous a pris au moment du printemps arabe et qui a fait qu'on avait une vision court-termiste Je ne reviendrai pas sur la déclaration des ministres français, en tout cas, sur l'imminence de la chute, etc. Une grosse erreur, d'ailleurs, toujours dans cette dynamique un peu folle, ça a été pour la France de fermer son ambassade à Damas en mars 2012. Ça a été une énorme erreur dans la mesure où on se privait ainsi de pouvoir observer sur le terrain ou de continuer à conserver un certain nombre de canaux, au moins, non pas de communication, mais au moins d'observation sur le terrain. Bon, alors évidemment, ce court-termisme est un jeu dangereux puisque l'Afghanistan, comme vous l'avez rappelé, ce jeu qui avait pourtant été joué déjà par les Américains en Afghanistan, qui consistait à essayer d'utiliser n'importe quel moyen pour contrecarrer les Soviétiques, et là en l'occurrence le régime, eh bien aboutit à des résultats catastrophiques. Et la situation actuelle, c'est que nous avons contribué à créer, de l'aveu même d'un ancien responsable de la CIA récemment, hein, la plus grosse zone grise djihadiste du monde depuis les années 80. Cet ancien responsable de la CIA a déclaré récemment qu'il y a probablement en Syrie deux fois plus de talibans. Deux fois plus de djihadistes qu'il n'y avait de talibans lorsque l'armée américaine a envahi l'Afghanistan en octobre 2001. Voilà. Deuxième erreur, à mon avis, c'était la question d'une intervention internationale et avec le souffre-douleur de la diplomatie qui est devenue la Russie, qui a tendance effectivement à concentrer un petit peu les foudres de ceux qui auraient voulu une intervention, mais je crois que la Russie n'est que l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est celle d'un monde qui a changé, qui a basculé. Et effectivement, on a vu dès les débuts du conflit beaucoup de gens qui ont prôné, qui ont encouragé par l'émotion, par la dénonciation réelle des massacres, par une sorte de storytelling qui expliquait qu'il y avait des démocrates contre des dictateurs. En réalité, on a rejoué un petit peu la partition des années 90, vous savez, ces années où on suscitait des révolutions, les Américains d'ailleurs, les États-Unis, on avait suscité un certain nombre de révolutions dites de couleur. Alors ça avait été en Géorgie, c'est en Serbie, en Ukraine, révolution orange, etc., à la fin des années 90. Voilà, les temps ont changé et peut-être que d'ailleurs la crise syrienne a été un révélateur de cette espèce de basculement du monde. Il semblerait que la question de l'ingérence, couplée avec celle aussi, il faut bien le dire, de l'impuissance américaine, enfin d'une relative impuissance américaine, mais la question de l'ingérence internationale, comme elle avait pu être pratiquée une fois que le terrain était libre dans les années 90, eh bien, est devenue insupportable à un certain nombre de pays, et pas seulement à la Russie, évidemment, qui est revenue en force, hein, mais aussi aux émergents. Il faut regarder les votes qui ont concerné la Syrie pendant les trois dernières années à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité, évidemment, mais à l'Assemblée générale des Nations unies. Et on serait étonné de voir que des grands pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud ou l'Argentine se sont souvent abstenus, voire ont voté contre un certain nombre de déclarations qui n'étaient pourtant pas contraignantes et qui condamnaient la violence en Syrie, etc. Alors, je pense que là aussi, on a beau jeu de dire que, comme il ne pouvait pas y avoir d'intervention et que les Russes avaient utilisé leur veto à de nombreuses reprises, et les Chinois également, eh bien tout cela a permis justement et a profité aux djihadistes et à l'islamisation de la révolte. Je crois qu'il faudra un jour revenir un petit peu là-dessus, et parce que moi je me souviens très bien, pour l'avoir dit, dès la chute de Kadhafi en réalité en 2011, à la fin de l'année 2011, eh bien des armes et des djihadistes affluaient déjà en Syrie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jeune journaliste française, Edith Bouvier, qui a fait un séjour assez cauchemardesque à Homs, eh bien, dans l'un des papiers qu'elle avait envoyé depuis Homs pour le Figaro, elle avait quand même expliqué qu'elle avait passé la frontière avec des lieutenants de Belhaj, qui était le gouverneur militaire de Tripoli, celui-là même qu'on avait aidé via nos amis du Qatar, a renversé Kadhafi quelques semaines plus tôt. Ensuite, évidemment, un certain nombre d'informations données, expliquées dès la fin 2011, montraient qu'il y avait effectivement ces donateurs privés saoudiens, notamment, qui finançaient les opérations de fundraising pour créer une sorte d'international sunnite. C'est, je crois, Dominique Moïsi qui avait comparé à ce moment-là ce qui se passait en Syrie à la guerre d'Espagne. Il avait tout à fait raison, une espèce de brigades internationales, mais qui étaient, elles, djihadistes. Alors, comme le régime dénonçait, et on comprend tout l'intérêt qu'il avait, effectivement, à dire qu'il n'avait en face de lui que des terroristes, eh bien, tous ceux qui mettaient en garde contre cette politique étaient, évidemment, vous savez, comme des Cassandres, au mieux, voire des suppôts du régime, au pire. Il a fallu attendre l'été 2012, quoique, durant cet été, journaliste Florence Aubenas, qui avait fait un séjour à Alep, a déclaré dans son livre de retour n'avoir vu aucun djihadiste à Alep. Il a fallu attendre le témoignage courageux d'un médecin français que j'ai rencontré, Jacques Berès, un chirurgien français qui est allé travailler pour Médecins Sans Frontières, opérer des combattants, qui a tiré un peu la sonnette d'alarme. Et donc à partir d'août 2012, ça y est, c'était acté, il y avait des djihadistes et des fondamentalistes en Syrie. On a faim de s'étonner et de découvrir la chose. Pour faire un petit peu de prospective, actuellement, si vous voulez. Je voudrais juste revenir sur la diplomatie des Occidentaux et en particulier la diplomatie française. La France disposait d'atouts diplomatiques qui n'étaient pas du tout négligeables et d'une bonne connaissance du dossier syrien, d'une tradition ancienne de résolution du conflit. Et ce qui a été. La France a été reconnue comme. Étant capable de mesures et de capacité à dialoguer avec tous. Et tout ça, semble-t-il, volé en éclats. À l'occasion de la crise syrienne, la France a donné le spectacle de l'improvisation, de la démesure parfois, d'une diplomatie de cow-boy, à tel point qu'on peut se demander si les néoconservateurs qui ont déserté les couloirs de Washington, visiblement, ne seraient pas réfugiés sur les rives de la Seine. Mais plus généralement, le résultat actuel, c'est lequel ? Que faire à l'approche de Genève 2 ? Je suis heureux d'entendre Basma dire qu'effectivement, il faut peut-être enfin négocier. Si on parle de Genève 2, il y a eu Genève 1. Genève 1, ça a été aussi une opération diplomatique tout à fait qui a été torpillée. Et donc, la CNS, la Coalition nationale syrienne, qui n'a pas réussi, et donc ça aussi c'est un des problèmes, qui n'a pas réussi à émerger, ni même à créer une véritable articulation sur le terrain avec les rebelles ou avec l'armée libre, semble complètement démunie et désarmée. Moi, je ne pense pas du tout que cette conférence se fera sur le plan politique. Je pense que Genève 2 a déjà eu lieu, c'est-à-dire que politiquement, la conférence de Genève ne va pas parler de transition politique, ne parlera pas de maintien au pouvoir ou non. Genève 2 a déjà eu lieu, c'était en septembre dernier, lorsque, avec cet accord surprenant sur les armes chimiques, les États-Unis et la Russie, et les États-Unis en particulier, de fait, ont reconnu la légitimité du régime syrien et se sont résignés, je crois qu'on peut dire des choses comme ça, à son maintien au pouvoir. De quoi sera-t-il question à Genève 2 ? Moi, je pense que c'est davantage sera une question de diplomatie entre les puissances, c'est-à-dire autour de la question de savoir comment faire cesser la violence, quelles concessions faire pour que cessent effectivement ces livraisons d'armes, de part et d'autre. Il ne faut pas oublier que la Russie continue de livrer des pièces détachées, continue de par divers moyens, d'aider le régime à ne pas s'écrouler financièrement, mais également le fundraising des États du Golfe et en général de tous ceux qui alimentent la violence. D'autant qu'il se pourrait qu'on assiste à des retournements surprenants. Regardez ce qui se passe déjà en Irak. Qui a intérêt à combattre Al-Qaïda en Irak en ce moment? Eh bien, c'est à la fois les États-Unis et l'Iran. Il se pourrait d'ailleurs que s'institue une forme de collaboration non dite entre ces deux États, ce qui serait très surprenant. Le Qatar, me semble-t-il, s'est déjà retourné. Le Qatar est beaucoup plus discret. Il a tenté de renouer avec le Hezbollah. Et d'ailleurs, dans les diatribes du régime, il n'est plus jamais question du Qatar depuis quelques semaines. Les Saoudiens sont effectivement en première ligne, mais le Qatar se fait beaucoup plus... reçoit beaucoup moins de quolibets qu'autrefois. La Turquie également, me semble-t-il, va comprendre que sa stratégie court-termiste, présente un vrai danger géopolitique pour elle. Il reste l'Arabie Saoudite et la France, et là, on ne sait pas trop. Je pense que c'est ça qui sera aussi l'objet de Genève. Mais globalement, pour conclure, je crois que la crise syrienne est une sorte de nouveau paradigme des relations internationales. Je ne veux pas prophétiser, mais je pense que à vouloir contenter nos alliés du Golfe sur toute la ligne, on s'est attiré la méfiance des pays émergents comme la Russie, la Chine, aussi le Brésil, l'Afrique du Sud, des pays qui sont avides de reconnaissance et qui sont arc-boutés sur leur souveraineté. Et je pense que le temps est venu du réalisme politique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Pichon, pour cette leçon de réalisme politique. Et merci de votre relecture. On sent qu'il y a aussi des approches, évidemment, un petit peu différentes, et relecture un peu différente. Parmi les choses que vous avez dites, je retiens l'insistance que vous avez faite sur la vision court-termiste de beaucoup qui pensaient à une chute rapide de Bachar el-Assad, le fait de sous-estimer les capacités de l'armée et du régime à se maintenir, et puis cette erreur du projet d'intervention internationale. Vous nous avez dit pourquoi finalement elle n'était pas possible, et puis peut-être la difficulté de reconnaître pendant longtemps le poids réel de la mouvance islamiste. Alors, j'ai eu le sentiment que vous ne sembliez pas attendre grand-chose de la conférence de Genève II, en vous appuyant sur le fait que les États-Unis s'étaient finalement résignés à voir le président Assad toujours en place. Je crois qu'on va avoir l'occasion un petit peu de pousser un peu plus loin votre réflexion par les questions. C'est le temps maintenant des questions. Alors nous allons, comme nous en avons l'habitude, faire passer un micro. On va récolter quelques questions. Nous faisons en sorte qu'elle soit brève pour pouvoir laisser le plus de temps possible aux réponses. Voilà. Alors, il y en a une ici et puis une après. Voilà. D'abord, au fond là-bas. Levez bien pour qu'on puisse... Le micro vient jusqu'à vous.
Oui, bonsoir. Je dois avouer que moi, je ne connais absolument pas...
Parlez un peu plus fort dans le micro, s'il vous plaît.
Pardon. Bonsoir. Moi, j'ai l'impression de ne pas connaître du tout l'opposition syrienne. Et ça me fait penser, je peux me tromper, peut-être que moi, je n'ai pas lu les bons articles dans la presse, mais j'ai nettement l'impression que les médias n'en parlent pas. Alors, ça me rappelle un petit peu... l'opposition libyenne qu'on ne connaissait pas et que l'ancien président de la République a reconnu sans trop les connaître non plus et sans, si ma mémoire est bonne, en avoir parlé avec le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que le fait qu'on ne les connaisse pas, le fait de ne pas les connaître, est-ce que ce ne serait beaucoup mieux pour rassurer les gens éventuellement pour se faire une meilleure idée de qui sont les rebelles. Est-ce que c'est seulement des djihadistes ou est-ce qu'il y a des vrais démocrates? Pourquoi les médias n'en parlent pas plus? Pourquoi on ne les connaît pas?
Merci bien. Il y a une question devant. Voilà. C'est toujours un exercice pour faire circuler le micro. Voilà, merci.
C'est un peu dans le prolongement de l'intervention qui vient d'avoir lieu. Est-ce que l'on a une idée de qui va négocier à Montreux pour les rebelles?
Merci. Alors, une troisième question derrière. Levez la main, monsieur. Voilà. Chemise blanche. Voilà.
Il y a plusieurs centaines de milliers de chrétiens d'Irak qui sont réfugiés en Syrie. Cette grande masse de chrétiens a-t-elle vraiment le choix de ne pas supporter Bachar el-Assad ou au contraire, Madame Khodmani, comptez-vous ces centaines de milliers de personnes comme potentiellement dans la masse dont vous espérez le réveil?
Et on va prendre une dernière question. Voilà, tout en haut, vous montez tout en haut, tout en haut, tout en haut. Voilà, le doigt se lève bien. Voilà, ne tombez pas au passage. Voilà.
Michel Malherbe, je pense que il y a un facteur qui n'est peut-être pas assez pris en compte. Le régime d'Assad serait peut-être tombé comme d'autres du printemps arabe s'il n'était pas pris dans un phénomène qui le dépasse complètement. C'est celui de la guerre de religion toute récente qui se développe entre sunnites et chiites. Par parenthèse, d'ailleurs, ça fait 15 siècles après la naissance de l'islam qu'ils inventent les guerres de religion entre protestants et catholiques. Maintenant, c'est entre sunnites et chiites. Alors, nous nous retrouvons maintenant en face d'un conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, d'une certaine mesure, dont la Syrie est la victime. Et s'il faut faire un choix entre deux peuples, le peuple iranien, lui, est un peuple quasiment européen, gouverné par des gens qui sont d'un autre monde, mais sont tout de même des gens fréquentables, alors que l'Arabie saoudite pose davantage de problèmes. Alors, nous sommes un peu déchirés. Et je voudrais bien que nos orateurs puissent nous éclairer. Merci.
Merci. On a déjà un petit peu votre avis dans la question. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois qu'il y a déjà suffisamment matière. On va peut-être commencer par ce qui touche à l'opposition syrienne, les négociateurs à Montreux. Basma Khodmani.
Merci. Écoutez, je voudrais tout de même commencer par dire un mot qui est celui de dictature, puisque Frédéric Pichon termine sur « il faut du réalisme ». Alors, le réalisme, c'est garder Bachar el-Assad. Et après tout, chacun va rentrer chez lui et on restera avec un régime qui combat, n'est-ce pas, les islamistes. Alors, sachez qu'il dépend de ces islamistes pour rester au pouvoir, comme d'ailleurs en Irak, le régime irakien aujourd'hui n'a pas pu obtenir des armes des Américains avant qu'il y ait des combats de djihadistes chez lui. Dès qu'ils sont apparus, il a obtenu exactement les armes qu'il voulait. C'est exactement la même logique. Il y a un paradigme qui est lutter contre le terrorisme. Alors le terrorisme, on ne sait pas d'où il vient, mais voilà, il est là. Et puis au nom de la lutte contre le terrorisme, on va conserver tous les monstres de la planète, tous les criminels, tous les sectaires les plus terribles que sont le régime irakien, typiquement. Et on reste dans une logique qui est, une fois que les régimes de la région ont compris que c'était ça le paradigme qui animait les grandes puissances, les États-Unis depuis 2001, alors ils le manipulent et on tombe tous dans cette manipulation. Nous sommes dans un régime de dictature. Une armée ne fait pas défection parce que chaque soldat dans cette armée est menacé. On a des dizaines et des centaines de soldats qui ont été tués dans la nuque parce que quand ils ont voulu faire défection, il y a derrière eux une milice, une unité des services qui les surveille. S'ils ne tirent pas, on leur tire dessus. Voilà des réalités qui se sont produites jour après jour, semaine après semaine. Ensuite, ceux qui ont voulu faire défection ont dit « on va aller et on vivra de quoi ?» là aussi, faillite de l'opposition, incapable de financer ces pauvres déserteurs qui voulaient faire défection. Quand ils faisaient défection, ils allaient se réfugier en Turquie, pas de moyens, ne peuvent pas partir avec leurs armes, donc ils ne représentent aucune force. Ils continuent à être payés, ils sont employés, ils sont terrorisés, ils continuent à se battre dans cette armée. Cela dit, ces unités ne sont absolument pas utilisées pour les besognes les plus atroces. Celles-ci sont commises par des milices. Aujourd'hui, le régime ne tient pas parce qu'il a une armée organisée, ni parce qu'il est cohérent, mais parce qu'il utilise des milices. Ces milices représentent environ 60 000. Elles sont étrangères. Toutes 60 000 combattants, au moins, se battent aujourd'hui aux côtés du régime. Ils viennent d'Irak, ils viennent parfois du Yémen, ils viennent évidemment du Liban avec le Hezbollah, et nous avons un fonctionnement du régime qui est extrêmement comparable à celui de la rébellion. Ce sont des milices, elles font tout et n'importe quoi, elles pillent, elles tuent, etc. Et puis chaque unité fonctionne toute seule. Nous avons exactement la même situation que du côté des rebelles, sauf qu'il y a des moyens plus importants. Il en est de même des dignitaires religieux. Et je vous invite à lire un article écrit par un professeur de théologie qui a été publié dans Le Monde il n'y a pas longtemps, syrien, le docteur Najib Awad, qui dit « Les dignitaires religieux, chrétiens comme musulmans, sont cooptés par le régime et impliqués et embrigadés et ensuite employés pour... » au service d'une propagande. Le problème, c'est que, comme dans toute dictature, la propagande est indispensable pour un régime qui veut défendre ce qui n'est pas défendable. Ceux qui se sont révoltés considéraient qu'ils étaient dans la justice, puisqu'ils étaient du bon côté, ils défendaient une bonne cause, celle de la liberté, etc. Alors, je pense qu'il est difficile de dire qu'ils ne se battaient pas pour la liberté. Et je crois que vous faire comme si on ne savait pas où sont ces gens qui portent le message de liberté et de demande de dignité, c'est difficile de les cacher. Ils sont là, ils continuent à être là, ils continuent à acheter des pots de peinture pour écrire sur les murs contre le régime et contre les djihadistes dans toutes les villes de Syrie. Ils vont manifester contre les djihadistes et contre le régime. Ils sont partout. Ils sont partout et si on veut les ignorer, évidemment, on peut toujours essayer de les ignorer. C'est ce que fait le régime. Et malheureusement, l'opposition que vous venez de mentionner, que vous avez mentionnée en disant la bonne opposition patriote, celle la modérée, celle qui aurait voulu négocier avec le régime, celle-là, ses principales figures ont été liquidées, et je peux citer les noms les uns après les autres, et ont disparu. Les trois personnalités les plus importantes de ce mouvement sont aujourd'hui, l'une a été tuée, deux autres ont disparu, on pense qu'ils ont été tués aussi. Donc nous sommes dans le système le plus dictatorial qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas d'espace pour la négociation politique et c'est la raison pour laquelle je dis il faut la négociation politique puisque c'est la seule menace pour le régime, c'est celle-là. Il ne veut entendre parler d'aucun changement ni d'aucune réforme. Et c'est bien là le problème. En trois ans, jamais il n'a été question, ni avec les Nations Unies, les missions d'observateurs qui arrivent. Tout est fait pour les induire en erreur. Elles partent impuissantes, furieuses. Tentative de vote au Conseil de sécurité pour condamner. Veto russe et on revient à la case départ. Donc, voilà la réalité de cette situation syrienne. Mais les victimes... continue de résister. Voilà, il y a les victimes, plus d'un, aujourd'hui 10 millions de Syriens, c'est-à-dire près de la moitié de la population, 40% de la population sont dans le besoin. 8 millions sont hors de chez eux. Mais les autres, il y en a, bien un tiers de la population, qui eux ont décidé qu'ils ne rentreraient pas chez eux et qu'ils continueront à se battre contre ce régime. S'il y avait le moindre espace de liberté ou de changement qui pouvait, ou de réforme qui aurait pu être envisagée, croyez-moi que les radicaux auraient été marginalisés, que les raisonnables seraient rentrés dans le jeu d'une négociation possible et d'une entente et d'un compromis. À aucun moment, et tous ceux qui ont appelé à la modération entêtés, soit liquidés, côté régime aussi, soit sont chez eux, enfermés, assignés à résidence. Il n'est pas possible de trouver un espace où l'on peut avoir un discours raisonnable. C'est une grosse inquiétude pour le régime. Alors, qui va négocier à Genève? Ceux qui vont négocier. Une opposition, c'est une opposition diverse. Elle n'existait pas sous forme de parti. Elle n'existe d'ailleurs toujours pas sous forme de parti. Ce sont des groupes, des individus, des gens qui se mettent ensemble pour travailler ensemble pour une cause commune. Bon. Est-ce qu'ils sont capables de convaincre les groupes sur le terrain? La réponse est il n'y a pas une opposition qui convaincra une rébellion armée. Il y a en revanche au sein de cette opposition des figures religieuses, sociales, morales, intellectuelles, qui sont tout à fait en mesure, ou qui sont en dialogue permanent avec les groupes sur le terrain. S'il y a une solution qui se profile, si le régime accepte Genève 1, que l'opposition a accepté, le régime n'accepte pas un texte qui a été rédigé il y a plus d'un an, un an et demi maintenant, et sur la base duquel on devrait tenir les négociations. Le régime ne les reconnaît pas, ce texte, l'opposition le reconnaît, mais si l'on trouve une solution sur la base de cet accord, de ce document de Genève 1, qui était signé par les Russes et les Américains, donc en principe, ils devraient...
Oui, mais que les Américains ont dénoncé. C'est pas le régime qui les a dénoncés.
Les Américains n'ont pas dénoncé Genève 1. Les Américains et les Russes l'ont signé ensemble. Si c'est le cas, il y a... on ne va pas d'un coup de baguette magique arrêter la rébellion, mais on sait que ces figures peuvent aller parler à ces groupes. Et que parmi ceux-là, il faudra évidemment convaincre les pays de cesser le soutien financier à un certain nombre de groupes, à tous les groupes d'ailleurs. Dès lors qu'on décide d'un arrêt des combats, c'est l'arrêt des combats. Ceux qui s'y conforment font partie de l'avenir de la Syrie, ceux qui ne s'y conforment pas seront combattus, Al-Qaïda et d'autres d'ailleurs. Donc, mais si on ne crée pas cet espace politique et cette option politique et diplomatique, on reste dans un vide que seuls rempliront les radicaux et le discours des armes et la violence. Voilà qui négociera pour les rebelles. Cela prendra du temps, mais il y a des gens qui peuvent parler à des groupes de rebelles et à mon avis, il restera un noyau dur. Celui-là, il va falloir le combattre et beaucoup comprendront que ce sera leur avenir et c'est pourquoi... je pense que, comme aujourd'hui ils se battent, ils rentreront dans le rang s'il y a un projet. Il n'y a pas de projet pour l'instant. Je n'ai pas bien compris la question sur les chrétiens d'Irak.
Je crois que c'est autour du poids de la population des chrétiens d'Irak qui est située actuellement en Syrie et dans cette organisation ou dans ce chaos actuellement en Syrie, quel rôle peuvent-ils jouer? C'est un petit peu ça que j'ai compris.
On espère qu'ils n'auront pas à repartir de Syrie. Hein. Et pour l'instant, ils n'ont pas été menacés. À ma connaissance, il n'y a pas de menace directe sur eux. Donc, je ne pense pas qu'ils soient aujourd'hui... quel que soit l'avenir s'il y a chaos, ils seront menacés comme tout le monde. Il faut bien voir que quand une église est frappée, il y en a 100 mosquées en face qui sont frappées. Donc, tous les lieux de culte sont frappés. Tous les gens raisonnables de toutes les communautés sont ciblés. Et il en est de même pour une communauté de réfugiés. Les pauvres Palestiniens qui sont partis de Syrie, ils ne sont pas chrétiens, c'est vrai, mais ils sont, pour la troisième ou quatrième fois de leur histoire, ils sont encore déplacés, puisqu'ils ont dû aller vers le Liban, où il n'y avait même pas de camp pour les accueillir. Ils sont partis, ceux-là, du camp de Yarmouk, parce que leur camp a été champ de bataille.
Peut-être Frédéric Pichon.
Oui, non, je voulais compléter. Bon, d'abord, en précisant que moi, je ne suis pas partie prenante. Je ne vais pas ici donner des gages mon absence totale de lien avec quiconque en Syrie. Moi, je fais une analyse froide, c'est vrai, réaliste si on veut. Ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que vous dites... vous faites partie de ceux qui veulent négocier avec le régime et vous nous dites qu'en fait, on ne peut pas négocier avec une dictature. Donc voilà, le réalisme, c'est considéré que c'est une dictature, mais il faut négocier. Donc je ne comprends pas trop votre position. Et quand vous parlez de d'opposition domestique, moi je faisais référence à Essam Manna ou à Michel Kilo par exemple, qui a rejoint d'ailleurs la coalition nationale syrienne, mais au prix de quelle distorsion on a vu un ambassadeur français essayer de convaincre, un ancien ambassadeur en Syrie, essayer de convaincre des membres de la CNS de faire un petit peu plus de place que les islamistes au sein de la CNS. Et ces gens-là étaient d'accord pour négocier. Mais si la France avait soutenu en mettant une pression militaire, en disant eh bien, écoutez, faites des réformes, négociez avec ces gens-là, au lieu qu'on a constitué à l'étranger un comité dont vous avez fait partie d'ailleurs, et que vous avez quitté, je pense, pour de bonnes raisons, parce que ça devenait complètement inaudible.
C'est moi qui vous dirais pourquoi j'ai quitté.
Oui, alors il y a plusieurs versions, on ne sait pas trop.
C'est pas vous qui me direz.
Oui, bon, je sais bien, mais. Donc je ne comprends pas trop pourquoi vous avez l'air de penser que j'ai une position effroyablement. Cynique, alors même que vous pensez qu'il faut négocier, que la solution... dire ça au bout de 3 ans, alors qu'au début, il n'était pas question de négocier justement avec le régime, et dire au bout de 3 ans, il faut négocier, c'est quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, au vu surtout du résultat.
Alors, il y avait une dernière question avant de reprendre une série concernant sunnites-chiites. Bon, je crois que ça a déjà été un petit peu dit, mais est-ce qu'on a là un conflit sunnite-chiite ?
Non, enfin, moi je crois que c'est le mythe de l'arc chiite. Là, c'est le roi de Jordanie en 2005 qui a utilisé ça, l'idée d'un arc chiite qui menacerait tout le monde. Je ne pense pas en tout cas que ça a été à la base du déclenchement, ou c'est peut-être un des éléments sur lequel... Mais de toute façon, comme pour les questions religieuses en France au moment des guerres de religion, tout ça vient... surinfecter en quelque sorte une plaie qui est politique, qui est économique, qui est éventuellement ethnique, etc. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'apocalypse et le lieu de l'affrontement des deux religions.
Bon, moi, sur ce point-là, oui. Oui, j'ajouterais tout de même que la question chiite, c'est le fonds de commerce de l'Iran et de la relégitimation de sa révolution. Et nous avons en Iran une situation très complexe aujourd'hui, mais nous avons tout un pan des institutions iraniennes et du clergé iranien, pas tout le clergé, mais une grande partie, de l'aile radicale qui a toujours existé en Iran avec deux ou trois courants qui doivent constamment trouver des équilibres. Ce courant qui veut l'idéologie, qui veut relégitimer constamment la révolution, celui-là est très actif pour essayer de maintenir, effectivement, de construire un arc dit chiite, parce que le chiisme lui permet de se projeter le long de cet arc, mais c'est évidemment une projection de puissance. Et on a en face des pragmatiques qui, eux, cherchent la légitimité démocratique. Et il y a deux légitimités en conflit en Iran, celle révolutionnaire et celle démocratique, qui se réclament du vote de la population récent pour le président Rouhani, qui, lui, cherche l'apaisement, a priori la coopération avec les pays de la région. Il reste un enjeu qui est celui du nucléaire. Celui-là peut-être fait rejoindre les deux courants, à savoir que le Hezbollah au Liban, c'est un moyen de riposter si Israël devait diriger une opération militaire contre les cibles nucléaires, contre les sites nucléaires d'Iran. C'est les trois aspects de cette situation iranienne. Donc, vous voyez que la question chiite, elle est un élément parmi d'autres et effectivement plutôt un prétexte. Voilà. Mais je voudrais tout de même dire que quand je dis on va négocier une dictature, on veut négocier avec des éléments de cette dictature. Le fait est qu'elle ne veut pas. Il est là le problème. Il n'est pas dans le fait que l'opposition ne veut pas négocier. L'opposition veut négocier. Le régime ne veut toujours rien entendre jusqu'à ce jour, malheureusement.
Alors, on va reprendre une série de questions, ce qui permettra encore de développer vos positions. On va donner la parole à Bordeaux, la ville de Bordeaux, qui nous donne ses questions. On essaye qu'elles soient assez brèves.
Alors, il y a pas mal de questions à Bordeaux.
Ah, oui.
Donc, quelle sera l'attitude de Bachar el-Assad ? Est-ce qu'il est bien disposé à l'égard des minorités ? Et en particulier, quelles sont quel pourra être le poids des chrétiens et comment ils pourront faire entendre leur voix. Après, une deuxième question, comment expliquer la méconnaissance des diplomaties occidentales et toutes les erreurs mentionnées. Est-ce qu'il y a une explication à cette méconnaissance ? Après, concrètement, dans les négociations qui vont venir, on ne voit pas très bien quelles seront les modalités pratiques qui permettront à la majorité silencieuse de s'exprimer. Et enfin, d'autres questions sur le financement. Qui finance l'ISIS ? Est-ce que finalement la France, en livrant des armes au Liban, est-ce qu'elle ne finance pas le conflit syrien ? Est-ce qu'il y a des financements non maîtrisés ? Voilà.
Alors, on va peut-être s'arrêter là, parce que sinon... Et on va reprendre une autre question. Voilà, en montant, voilà. Voilà, le monsieur qui est au bout de la rangée. Voilà, monsieur. Voilà, parlez bien fort dans le micro.
Oui, alors ma question est la suivante. Est-ce que quand on a eu le mandat, on s'est empressé de diviser les Syriens les uns contre les autres en créant des tas de petits États ? Est-ce que le terminus de ce qui se passe actuellement, ce ne sera pas également un démantèlement de la Syrie ? Comme ça, chacun y retrouvera son compte et on aura une paix relative.
Voilà, et on prend la question de votre voisin. Vous avez la chance, vous êtes juste à côté. Allez, on fait un prix groupé.
Merci. Oui, Bernard Cornu. Madame Khomeini a dit à 20h30 exactement que le régime n'accepte aucune réforme. Or, Monsieur Pichon a dit que dès le 27 mars, le président Assad a proposé des réformes. Puis en avril, il a envoyé un de ses conseillers, conseillères, expliquer à l'ambassade, à Monsieur Chevalier, l'ensemble du train de réforme et des échéances qu'il proposait. L'ambassadeur a eu alors l'interdiction d'en parler, de développer ça. Les médias en peuvent parler. Monsieur Chevalier, d'ailleurs, a dit au changement de gouvernement l'année dernière, une fois qu'on l'avait empêché de parler de ce qu'il pensait, il s'est fait taire après, il n'a plus rien dit. Et en juillet 2011, il y a eu des réunions autorisées dans un hôtel et la France a dissuader les opposants français en France, qui sont en France depuis très longtemps, de participer à ces réunions.
Voilà.
Et plusieurs des réformes ont été appliquées. Voilà.
Très bien.
Donc,
merci. On va en rester là pour l'instant, pour pouvoir donner la parole d'abord à M. Pichon, d'autant que, comme il a un train pour rentrer ce soir à Tours, il ne faut quand même pas qu'il rate son train à Montparnasse. À Nantes. Surtout, c'est des régions importantes.
Je vais être très rapide sur la question du contenu politique des négociations. Moi, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Il n'y aura pas de Genève 2 ne portera pas sur les questions politiques ou de transition. Encore une fois, je pense que c'est si tant est qu'elles se tiennent d'ailleurs. Là, n'a pas les questions, donc il n'y a même pas d'agenda. Et je crois que la CNS a demandé avant-hier même un report de la conférence parce qu'il n'y a rien à négocier politiquement. Pour ce qui est de l'attitude des dirigeants français, comment expliquer ça ? Ben, vous l'avez très bien rappelé, je ne voulais pas en parler tout à l'heure, mais Éric Chevalier, qui était l'ambassadeur à Damas, a alerté, lui, dès les débuts. Lui, sur la résilience du régime, il avait mis en garde Alain Juppé. Il avait dit, attention, vous faites une erreur, il ne va pas tomber. Le régime est solide. Bon, alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas écoutés ? Je n'en sais rien, mais je pense que c'est quand même tout ça est imputable, ces erreurs d'appréciation. C'est imputable à cette nouvelle génération d'hommes politiques pour qui les questions stratégiques sont subalternes. La géopolitique ne les intéresse pas, ou alors ces questions sont pensées selon le temps très court de l'électoralisme. Et voilà, donc c'est vraiment... Alors, de temps en temps, on a manipulation de postures régaliennes lorsqu'il s'agit d'accueillir des otages qui reviennent, etc. Mais des envolées martiales, comme on a pu en voir de manière assez ridicule en septembre dernier, enfin... voilà, je ne vais pas insister, mais je pense que c'est fondamentalement, c'est des questions qui n'intéressent pas les gens qui composent une grande partie de notre personnel politique. Voilà. Et sur la partition de la Syrie, là aussi, il y a des tas d'hypothèses. Bon, elle est en cours, hein, de toute façon, de fait, elle est en cours. Alors, est-ce que ce sera la solution ? J'en sais rien.
Merci. Basma Khomeini.
En quelques mots, des sujets énormes. La question concernant les minorités, Je ne sais pas si on peut encore dire que le régime protège les minorités. Il y a un slogan que le régime a lancé depuis le début. Il se présente comme protecteur des minorités, or il les prend en otage. Et penser que, au nom de la protection des minorités ou au nom de la laïcité, et je suis laïque moi-même, on peut accepter que des massacres et des atrocités de ce niveau soient acceptables, devient une absurdité totale. Donc je crois que nous sommes en face d'un discours médiatique formidablement puissant du régime, parce qu'il investit des sommes faramineuses dans les boîtes de relations publiques pour faire en sorte que sa propagande soit diffusée. Ça, c'est le propre des dictatures. Ce discours-là touche une fibre sensible, et d'ailleurs les pays où l'investissement est le plus important, c'est les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, c'est les trois pays qui peuvent bouger parce qu'ils sont membres du Conseil de sécurité, ailleurs ça les intéresse moins. C'est dans ces pays-là que se fait cet investissement. Or, le grand danger, c'est de dire au nom de la protection des minorités, nous voilà devant un monstre qu'il faut accepter, et tous les jours, ah ben il protège les minorités. Et si on n'arrive pas à sortir de cela, on est en train de dévoyer tous les principes de protection des minorités et de la laïcité, je crois. Je crois que si la France se trouve aujourd'hui un peu isolée, ça n'est pas parce qu'elle a pris une mauvaise position. C'est l'Amérique est dans un embarras moral terrible. Il y a des gens qui démissionnent de l'administration américaine. Il y a des responsables américains de la CIA, du Pentagone, le ministre lui-même, le directeur de la CIA lui-même, qui en juillet dernier ont dit à M. Obama, il faut et nous pouvons mener une opération militaire limitée. Je ne sais plus s'il s'agissait de frappes chirurgicales ou de zones de protection humanitaire, une zone d'exclusion aérienne pour des raisons humanitaires. Ils n'ont pas été entendus parce qu'Obama se donne pour mandat de rapatrier les troupes. Ça n'a rien à voir avec si ça mérite ou ça ne mérite pas une intervention. Il sait très bien que c'est bien plus terrible que la Libye, que c'est bien plus atroce que bien des situations où l'Amérique est intervenue. Il n'intervient pas pour des raisons qui tiennent aux 10 dernières années de l'histoire de l'implication de l'Amérique dans la région. Alors si la France se trouve en situation où elle a peu de partenaires, mais je crois que ce n'est pas la preuve de l'erreur. C'est plutôt la cohérence d'une position et une position morale qui dans l'histoire, je pense, je fais le pari, que la France aura fait le choix humaniste et le choix moral dans cette affaire. Devant une injustice, elle a continué à prendre la position qu'elle prend. Rien d'électoraliste dans l'affaire, puisque l'électorat n'a pas suivi. Et pourtant, la France se préparait à une opération. On ne sait pas quelle aurait été l'histoire de ce conflit s'il y avait eu une zone de protection, une zone humanitaire, une intervention de type prévu au mois de septembre dernier. On ne sait pas quel cours aurait pris les choses. Pire que ce que l'on voit aujourd'hui, je crois que c'est difficile à imaginer. Alors partageons la Syrie, n'est-ce pas ? C'est peut-être une façon d'en finir et de permettre à tout le monde de vivre tranquillement. Seulement le problème, c'est que ça ne s'arrêtera pas à la Syrie. Ça sera toute la région. Et rien ne se fait proprement. Il faudra du nettoyage ethnique, il faudra chasser des populations, il faudra continuer la guerre pendant quelques années encore pour qu'on ait des frontières propres et nettes qui permettraient à chaque communauté de vivre dans son ghetto. Et on ne parlera plus de Syrie, effectivement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de la majorité silencieuse, c'est celle-là qui veut encore une Syrie multi-ethnique, multi-religieuse, multi-confessionnelle. Et le témoignage du commandant-chef des forces d'observateurs, le Norvégien, le général Mood, à son retour de Syrie, disait « L'identité syrienne est très vivante encore chez tous les Syriens. Je l'ai constaté, je suis allé partout en Syrie et je l'ai mesuré. Vouloir être syrien, je vous assure que ça existe encore chez une grande majorité. Alors, quand les armes s'expriment, et je disais l'autre jour à un chef de guerre libanais, ancien chef de guerre, j'ai dit, puisque le peuple veut cette paix et veut l'arrêt des combats et veut vivre ensemble, on va y arriver. Il me dit non. Au Liban, nous, chefs de guerre, nous ne voulions pas l'arrêt des combats, la population le voulait, nous avons continué pendant 2 ans.
Bien, nous allons en rester là, puisque le temps est venu. Il y aura évidemment beaucoup, beaucoup d'autres questions à poser. Je voudrais remercier en votre nom beaucoup nos intervenants, Basma Khodmani, Frédéric Pichon. Pour la qualité de leur analyse, même si parfois elles étaient différentes, je crois que c'est aussi l'intérêt de telles soirées. Je crois que pour autant, elles nous obligent ces soirées et cette soirée particulièrement à reformuler aussi nos propres avis. Et nous savons que la situation reste compliquée, mais cela va peut-être quand même nous aider à être encore plus attentifs à ce qui se passe, aux postures des uns et des autres, aux interventions de chacun, et puis aussi, parce que c'est peut-être l'une des seules choses dont nous savons que nous avons possibilité de le faire, c'est de porter ce pays dans notre prière. Merci de votre présence ce soir. La prochaine réunion d'éthique publique sera le premier mardi du mois de février. Peut-être parlerons-nous de la politique française. À bientôt. Merci.